pour
s'en délecter. J'ai joint un petit dossier à mon intervention. Alors une partie est imprimée, une autre ne l'est pas. Elle se trouve cependant sur le site et vous avez le lien sur le mail que vous envoyez à l'écran.
J'ai pas de jeu de.
Ah non, pas là. Donc dans cette bibliographie que je vous ai fait passer, il y a les principales sources que j'ai utilisées pour ce propos. Je me suis permis la coquetterie de, puisqu'on revient d'Israël, de rajouter deux titres qui sont relativement récents, et le dernier, j'ai juste commencé à le lire, mais j'ai trouvé qu'il était très intéressant, donc je l'ai quand même noté. Et d'ailleurs, il a beaucoup à voir avec ce dont nous allons parler maintenant. Alors, j'ai voulu donner un titre à ma conférence, qui sera peut-être plus... à mon propos, que je vous engage à interrompre dès que vous voudrez, pour que ce ne soit pas trop professoral, d'autant plus que je n'ai rien à professeur, qui est en fait « Temps, unité, solidarité, la politique juive à partir des sources traditionnelles ». C'était un peu pour me démarquer du travail de Danny Trom, mais pas du tout dans l'idée d'y être hostile, de m'y affronter, etc., mais simplement, comme l'a dit Alexandre, de proposer une lecture alternative de la politique juive dans la confrontation des milieux traditionnels, on va dire des milieux religieux, je parlerai aussi des milieux orthodoxes, avec la modernité politique juive qu'a constitué le sionisme. Alors Danny Trom a proposé, comme vous l'avez rappelé Alexandre, dans son axiomatique du gardien, une réflexion sur le rapport des juifs à la politique qui est en fait centrée essentiellement sur la problématique de la survie en milieu plus ou moins hostile. Nous a offert à la discussion dans ce séminaire l'idée que la politique juive en exil se serait cristallisée sur la question du maintien des relations avec un gardien, comme vous l'avez dit, que ce gardien soit le roi, fût-ce un roi non-juif, en général un roi non-juif, de Cyrus à Macron, si j'ose dire, et là la thèse me paraît particulièrement audacieuse, qu'il s'agisse de l'État juif moderne, Israël, dans la mesure où celui-ci, bien loin d'avoir aboli les mœurs de l'exil, n'aurait fait que relayer les fonctions du protecteur, y compris du protecteur non-juif en galoute, en effaçant ou en rendant plus poreuses du coup les frontières entre la situation du peuple juif sur sa terre et celle de l'exil. Il n'y aurait pas vraiment, au fond, de différence qualitative. C'est ça qu'il laisse entendre. Bon, il n'est pas là pour... Donc je peux dire ce que je veux sur, sur son livre. Et il réfutera cette interprétation s'il veut. Dans son explication, le politique juif par excellence devient le Shtadlan, qui assure l'interface friable entre les sociétés juives et non juives. Quant au gardien, il est censé protéger les communautés des agressions du peuple ou des prêtres, selon le modèle développé par l'historien Yosef Haïm Yerushalmi dans son fameux article « Serviteur des rois et non serviteur des serviteurs ». Yerushalmi estimait, lui, que la Shoah et l'émergence d'un antisémitisme d'État en Europe avaient mis à mal ce paradigme qui avait pourtant assuré la survie des Juifs en exil depuis des millénaires, malgré les persécutions. Danny Trom, lui, juge que ce paradigme semble désormais en échec en Europe, mais qu'il s'est déplacé sur l'État d'Israël et que la vague, dans son deuxième ouvrage, que la vague d'alias française actuelle, suite à un regain d'antisémitisme, en serait une nouvelle illustration. Pour étayer son propos, et ça, j'ai trouvé que c'était un geste tout à fait intéressant. Et l'inscrire aussi dans une tradition juive, d'Anitron a puisé non seulement à la sociologie, mais également aux sources textuelles juives, traditionnelles, en proposant une lecture du Midrash d'Esther. Peut-on ériger ce texte comme une mise en place du rapport spécifiquement juif au politique? C'est ce qu'il a tenté de nous prouver séance après séance. Nous l'avons vu, cette interprétation a été remise en cause par le Rav Gronstein, qui a suggéré une autre lecture des mêmes textes, faisant apparaître, au contraire, dans la Megillah et dans les Midrashim qui s'y rapportent, un épuisement, voire un échec du politique. Bon, je ne reviens pas sur cette discussion qui s'est étendue, comme j'ai dit, sur plusieurs séances et qui a été passionnante. Mon propos de ce soir consistera surtout à essayer de montrer que d'autres modèles juifs du politique peuvent être trouvés en explorant les sources de la tradition, dès lors qu'on ne s'arc-boute pas obligatoirement sur la définition moderne, donc sécularisée, du politique, et qu'on les lie, d'une part à la lumière de la problématique de l'histoire conçue comme processus de la Géoula, c'est-à-dire sur un mode théologico-politique assumé, et deux, dès lors qu'on ne réduit plus l'espace de la politique juive à la relation avec un extérieur favorable ou hostile, mais qu'on l'aborde selon les dynamiques internes aux conceptions et au monde juif. Je reste volontairement vague. Et non à partir d'une définition du politique comme biopolitique de la survie ou de la résistance basée sur l'état d'urgence et le rapport ami-ennemi. Une toute autre perspective peut à mon avis être trouvée si on examine la façon... Bon, je viens de résumer votre pensée, alors vous arrivez à point. Donc une toute autre perspective sur ce qu'est la politique juive pourrait en effet être trouvée si on examine la façon dont la pensée religieuse s'est confrontée à deux problèmes historiques précis. Petit 1, l'émergence d'une conscience nationale moderne juive, notamment avec le sionisme, et pas seulement d'ailleurs avec le sionisme, mais je laisserai les autres options de côté, émancipation, engagement révolutionnaire, socialisme, communisme, etc. Et la confrontation, évidemment, avec la Shoah. C'est de ça dont il va être question ce soir. Je voudrais montrer comment s'est édifié dans la pensée orthodoxe un paradigme politique ancré à la fois dans les sources et dans l'expérience, à la faveur des transformations ou les préparant occasionnées par l'idée sioniste et la montée en puissance et en extension du thème des trois promesses. Shalosh Shvuot. Je voudrais tenter de montrer à partir de quelques exemples, mon propos ne sera pas du tout exhaustif, que ce paradigme des trois promesses ne se réduit pas à un appel au quiétisme, voire un refus pur et simple du politique, mais qu'au contraire, il est une conception qui constitue une attitude politique active, fondée non sur la survie, mais sur l'espérance messianique de rédemption. La Géoula. Dans la discussion qui suivra mon exposé, je serai heureux de savoir dans quelle mesure les deux modèles, l'axiomatique du gardien ou le paradigme des trois promesses, s'affrontent. Alors, une autre limite de mon exposé, je me concentrerai ici exclusivement sur quelques illustrations empruntées au courant orthodoxe critique, voire extrêmement critique du sionisme, dans lequel on trouve l'usage, les formulations et les réélaborations les plus sophistiquées des dites trois promesses. Et donc, je n'entrerai pas, sinon allusivement, dans les théories des Mevasser Etzion, du Rav Kook, d'Isaac Breuer, ou du Mizrahi, qui ont cherché à établir, eux, un lien direct entre la modernité politique représentée par le sionisme et la tradition. Ce que je voudrais établir, c'est la chose suivante. Le paradigme des trois promesses ne se limite pas à une prescription d'attitude exclusivement négative face à la perspective, face au choc.
J'apprécierais que vous disiez en trois mots en quoi consiste.
J'y viens. Oui, mais vous avez raison, j'y viens bien sûr. Là, on n'est pas loin. mon propos ne se limitera pas à une prescription. Le paradigme des trois promesses ne se limite pas à une prescription d'attitude exclusivement négative face à la perspective, face au véritable choc qu'a représenté pour des consciences religieuses la formation paradoxale d'un mouvement juif qui prônait une sorte d'analogue, d'analogon des promesses messianiques, le retour à Sion, mais porté par des juifs en rupture avec la tradition des porqués à Ahol, ceux qui rejettent le joug de la Torah. Certes, il est une réponse ancrée sur les textes à la constitution d'une réalité intermédiaire, le Yishuv, puis l'État d'Israël, entre l'exil, quelque chose entre l'exil, la galoute et la rédemption, Geoula, Israël. Israël est un État-nation qui n'est fondé ni sur la Torah et qui surtout n'est pas le résultat d'une teshuva collective ou individuelle et qui se réalise indépendamment de tout signe tangible d'arrivée du Messie. Voilà à quoi le monde orthodoxe est confronté dans la modernité politique de l'existence juive. Et si j'ai parlé de choc, je le mesure à la violence qu'on va voir de ces réactions. Mais on peut aussi voir dans ces réactions très radicales, et ça peut-être on y reviendra dans la discussion, aussi une critique radicale du nationalisme moderne où se profile un autre horizon pour la politique dont le contenu n'est pas seulement la matière de l'abondante recherche qui entoure désormais la Weltanschauung, l'idéologie des mouvements Haredim, au fur et à mesure de l'importance croissante qu'ils occupent dans l'espace politique israélien ou diasporique. Je n'en fais pas seulement une simple curiosité historique. Alors, comme l'a dit très bien le professeur Rivlin, que sont les trois promesses? Il convient de définir les trois promesses ou serments. De quoi s'agit-il? Là, je vais sans doute être amené à répéter des choses que plusieurs personnes dans la salle connaissent déjà et bien mieux que moi. Je m'en excuse et je les invite à corriger s'ils estiment mes interprétations erronées. Les trois promesses délimitent le cadre strict dans lequel peut s'opérer pour les juifs orthodoxes le retour sur la terre d'Israël en période d'exil et tant que la fin des temps n'est pas advenue. Non que les juifs orthodoxes, à travers les siècles, se soient abstenus de monter en Israël. Au contraire, au tout début du XIXe siècle, avant même la formation du sionisme, la montée en Eretz Israël fut considérée par les élèves du Hatam Sofer et du Gaon de Vilna comme une élévation spirituelle et nul n'y a vu un risque quelconque pour les valeurs juives traditionnelles. Au contraire, le vieux Yishuv pouvait apparaître à leurs yeux comme un abri dressé non seulement contre l'antisémitisme européen qui commençait à sévir, l'antisémitisme moderne européen, mais aussi contre la modernisation elle-même et la sécularisation des sociétés européennes en voie d'industrialisation qui menaçait aussi le monde juif traditionnel. Mais ces alliotes étaient dénuées de toute motivation en lien avec un quelconque motif national. La renaissance d'une nation juive restait repoussée à la fin des temps. Cette attitude continuait à se placer, on peut dire, sous l'inspiration de ce que Gershom Scholem a désigné sous le thème de neutralisation du messianisme qui est, selon lui, caractéristique du chassidisme de cette époque. Après la terrible déception représentée par l'épisode de Sabbata et Tzvi, l'idée d'un Messie était ainsi renvoyée à une rupture miraculeuse de la continuité historique et donc à la fin des temps, à un espace qui est situé en dehors de l'histoire. Le mouvement des Chovevei Tzion qui précède le sionisme n'en a pas moins suscité un certain nombre de soutiens auprès des rabbanim et des admorim de premier plan. Mais au début du XXe siècle, le mouvement sioniste proprement dit, le sionisme politique lancé par le docteur Theodor Herzl, prend un tour de plus en plus séculier et on ne trouve presque plus d'admor ou de rabbanim du courant lituanien ou racidique pour le soutenir. Au contraire, les publications hostiles se multiplient, comme le montre par exemple le premier recueil de Higuerot de Doléador, paru en 1900 sous le titre de Or la Yesharim. Notons également le Sefer Da'at HaRabbanim de 1902. Et tout se prononce de façon de plus en plus virulente contre l'entreprise sioniste. Parmi eux, le Rav David Friedman de Karin, le Rav Chaim Soloveitchik de Brisker Rebbe, le Rav Yosef Rosin, le Rogat Shover, le Rav Shalom Dovber Schneerson, l'Admor de Lubavitch, le cinquième, soit l'élite du monde religieux de cette époque. Au motif du rejet, évidemment, de l'émancipation, de la réforme et de la modernisation de l'existence juive, dont le sionisme serait un des produits, se superpose chez le Rabbi de Lubavitch particulièrement la thématique du messianisme, ou plutôt de l'empêchement du messianisme réel que constitue le sionisme. À ses yeux, et aux yeux de beaucoup de ses opposants, le sionisme est une tentative de dricat à ketz, une expression qu'il faut entendre dans les deux sens du mot dricat, comme une tentative de précipiter la rédemption avant le temps. Et un des modèles est souvent invoqué, et la sortie précipitée et précoce des Bnei Ephraïm d'Égypte avant la date fixée. Sur lequel on reviendra. Et dans lequel le sionisme est réfléchi dans ces textes. Comme les enfants des frères qui sont partis 30 ans avant la naissance de Moïse, le sionisme représente dans ces textes une faute contre le temps, plus que contre l'espace. Dans la perspective de la Géoula, la politique a tout l'air de se jouer dans la dimension plus spirituelle de la temporalité, autant sinon plus que dans un esprit d'acquisition et de conquête de territoire. Ce n'est donc pas l'action politique qui est condamnée en tant que telle, mais le fait qu'elle ne soit pas réalisée en temps voulu. On comprend aussi pourquoi la Dricat à Ketz ne précipite pas seulement la fin des temps, elle la repousse même quand les circonstances étaient favorables. Et c'est ainsi que par exemple, et l'exemple est convoqué par le Rav Teitelbaum, que Jacob Emden interprète la faute du sabbatianisme d'avoir péché contre le temps. Le sionisme n'est donc pas seulement un messianisme illusoire, il est aussi un obstacle, un empêchement à la venue du Messie, qu'il repousse, même si les circonstances à son arrivée paraissaient réunies. Alors cette notion de Dricat à Ketz apparaît dans la Gemara, que tout vote sans A, dans un contexte, il faut le préciser, qui relève du Midrash, et donc du commentaire et non de la prescription. C'est important car cela aura une incidence sur le statut de ces promesses auxquelles on le verra, les adversaires les plus résolus du sionisme chercheront à donner une valeur halachique et même une valeur équivalente à l'idolâtrie, la débauche et le meurtre, soit un statut de mitzvah yareg ou bal yavor, c'est-à-dire des mitzvot qu'on ne saurait enfreindre même au prix de sa vie. Ces trois promesses dans Ketuvot sont un commentaire, en tout cas se présentent comme un commentaire des trois versets presque identiques du Cantique des Cantiques, verset célèbre. Je vous en conjure aux filles de Jérusalem, donc vous les avez dans l'extrait numéro 1, par les biches et les gazelles des champs, n'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il le veuille. On retrouve, ça c'est Shirachirim 2.7, on retrouve exactement le verset formulé de la même façon en 3.5 et avec une formulation très légèrement différente en 8.4. Je vous conjure, fille de Jérusalem, n'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il le veuille. On sait que les Chazalim ont tendance à interpréter le Cantique des Cantiques comme se rapportant à l'amour entre le fiancé et la compagne, Raya, dont il est fait mention dans le sens d'une description des relations entre Dieu et Israël. Comme si l'amour de Dieu pour Israël se trouvait en sommeil, qui est la définition de l'exil, et que la compagne, le peuple juif, était enjoint de ne pas le ranimer avant le moment opportun. La Guémara, d'ailleurs, semble étendre aux nations cette injonction de ne pas réaliser artificiellement la fin, mais d'attendre le jour fixé en les incluant dans le serment. Alors voici le texte de Ketuvot 111a, donc c'est l'extrait numéro 2. Pourquoi ces promesses sont-elles au nombre de 3? Une pour qu'Israël ne monte pas Bachoma ou Kachoma, que le Saint béni soit-il a fait promettre aux enfants d'Israël de ne pas se rebeller contre les nations, et une que le Saint béni soit-il a fait promettre aux idolâtres qu'ils n'oppriment pas trop Israël. Alors, Rashi commente le terme Bachoma comme Yahad ou Yad Hazaka. Et c'est seulement dans la suite du texte que la notion de Drikat Haketz apparaît, quand Rabbi Lévi précise qu'il n'y a pas seulement 3 promesses, mais 6 en réalité. Chacun des 3 versets contenant 2 serments. Donc je cite la Gemara, je glose. La Gemara explique, Rav Zera a besoin de la répétition de « n'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il le veuille » pour ce qui a été enseigné par Rabbi Lévi qui disait « les versets susmentionnés qui contenaient cette phrase, quelle est leur nécessité ?» Les 3 premiers sont ceux que nous venons d'expliquer, les 3 autres contiennent les 3 vœux suivants, que ceux qui la connaissent, ceux qui parmi eux sont prophètes, enfin qui connaissent la fin, ne doivent pas révéler la fin des temps, qu'ils ne doivent pas éloigner ou repousser, et c'est là qu'apparaît le mot « yidreku » ou « yirreku », cette fin des temps en disant qu'elle est encore lointaine, et qu'ils ne doivent pas révéler le secret d'Israël aux nations. Ça signifie, selon Rashi, qu'ils ne doivent pas leur enseigner la science du calendrier, ni les noms de la Torah, ces textes sont assez célèbres. Alors donc, on le constate, la Drikat Haketz se présente au milieu d'une série de issurim, d'interdits, et seulement dans une version tardive des promesses. Mais c'est quand même à juste titre qu'elle s'est imposée comme la principale leçon de ce passage fameux. L'idée générale, c'est que l'exil a été imposé à Israël, au peuple juif, en châtiment de ses fautes, et qu'il lui appartient d'accepter ce châtiment avec soumission jusqu'à la fin des temps. Dans la suite du texte de Ketubot, on évoque le châtiment, d'ailleurs, qui attend celui qui enfreint ces 3 promesses à partir de l'expression de Cantique des Cantiques 2.7, où il est question des biches et des gazelles des champs, qui prend le sens du sort des biches et des gazelles abandonnées aux bêtes sauvages, selon Rabbi Eleazar, pour qu'ils les dévorent. Donc déjà, dans la Gemara, on a... une version assez forte de l'impact de ces 3 promesses, même si elles apparaissent dans un contexte agadique. Avant de passer aux usages que les commentateurs orthodoxes contemporains du sionisme ont pratiqué des 3 promesses, je voudrais juste faire une petite digression qui nous permettra de montrer à quel point ce texte peut être lu de façon plurivoque. Car cette référence aux 3 promesses qui va servir de base théorique, un rejet radical du sionisme, de l'entreprise sioniste, peut aussi être infléchi dans le sens d'un messianisme processuel, kima-kima, et inclusif, qui rend possible l'action des hommes, par opposition à un messianisme exclusivement miraculeux, et donc dépendant exclusivement d'Hachem. L'un des représentants des Mevaseré à Tzionout, cité par Aviezer Ravitsky, le rabbin prussien Tzevi Hirsch Kalischer, on a ainsi fourni une lecture très audacieuse qui tranche, il faut le dire, sur le quasi-consensus qui va se former autour de l'interprétation des 3 promesses dans le monde orthodoxe. Alors, chez Lo Ya'alou, pour Kalischer, chez Lo Ya'alou Israël Bachoma, que Israël ne monte pas par Roma. On verra le sens de cette
violence.
Comment ?
Par la violence.
Par la force et de façon organisée. Alors ça, c'est l'interprétation du Rav Teitelbaum. De façon organisée, disons. Il y a plusieurs interprétations, on verra, sur Bar Roma. Alors ça devient une injonction à ne pas revenir en Israël d'un seul homme, mais petit à petit. Kima. Shelo Yirreku, ou Yirreku et Taket, signifie il faut qu'il y ait une continuité entre l'activisme d'ici-bas, l'activisme politique, et l'objectif final, et toute action politique doit être en relation avec la fin et l'avenue du Messie. Et troisièmement, Shelo Yimardu Beumot Haolam, qu'il ne se révolte pas contre les nations du monde, c'est seulement par un processus politique et avec l'accord des non-juifs, hein, sur le modèle de Cyrus, qui appelle les juifs à aller rebâtir le temple, que pourra s'opérer le tournant messianique. Alors nous retrouverons cette lecture du paradigme processuel quand nous en viendrons au Rav Teitelbaum. Auparavant, après avoir justement à contre-jour évoqué la version, l'interprétation des trois promesses par ceux qui deviendront des références de la montée en Israël, je vais m'attarder sur la radicalisation du paradigme des trois promesses chez le Rav Yoel Teitelbaum. On a vu en tout cas l'interprétation du rabbin Kalischer permettait d'envisager la problématique des trois promesses comme compatible avec l'idée d'un messianisme actif, c'est-à-dire dépendant aussi de l'action des hommes dans l'histoire. Mais, comme je viens de le dire, cette lecture a été plutôt marginale et n'a nullement fait l'objet d'un consensus. Avec le Rav Yoel Teitelbaum, leader du courant des Satmers, nous en voyons au contraire une exégèse extrême, et je m'y arrête un instant. Une remarque préalable, j'aurais pu aborder la question du rejet du sionisme par l'orthodoxie à travers une autre figure, celle du Rabbi Chaim Elazar Shapira, l'admor de Munkach, notamment dans son Tikkun Olam de 1936 et le Minhat Eleazar. Dès 1922, lors d'un rassemblement en Slovaquie contre l'Agudat Israël, auquel participe le Rav Teitelbaum, le Munkacher Rebbe met en forme ce qui va être, jusqu'à aujourd'hui, la protestation orthodoxe contre l'implantation juive moderne en Eretz Israël. Il réagit à certains tenants du courant lituanien, comme d'après Avi Ravitsky, le rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, qui considère que la déclaration Balfour équivaut à une annulation des trois promesses, de la validité des trois promesses. Et au contraire, le Munkacher Rebbe parle de la déclaration Balfour comme de Tsarat Baal Peor, comme la lèpre de Baal Peor. Elle est bien résumée dans une interview qu'il accorde à un journal juif hongrois, peu de temps après le déclenchement de la grande révolte arabe dans la Palestine mandataire en 1936, et après sa propre visite en Israël, en Palestine mandataire. Donc je cite. Il y a quelques années, j'ai visité la Palestine. Un diplomate m'a confié alors. Monsieur le rabbin, dites à vos fidèles qu'il est interdit aux juifs de venir sur cette terre. La Palestine est de la cendre sous laquelle couve de la braise brûlante. Le monde est peuplé de 300 millions d'Arabes, en 1936, et il y a 200 000 juifs en Terre Sainte. Pour l'Angleterre, 300 millions d'Arabes sont une bien meilleure affaire que 200 000 juifs. Et là, le rab de Munkach parle en son nom. Comment est-il possible de faire entrer 13 millions de juifs dans cette portion de terre que l'on désigne sur la carte du nom de Palestine? Autant dire qu'on doit faire rentrer un peuple entier dans le tiroir de cette table. Notre doctrine dit explicitement, seule l'arrivée du Messie conduira le peuple d'Abraham vers la Terre Sainte. Il n'appartient pas aux hommes de s'emparer de nous pour nous mener là-bas. Je l'ai déjà dit il y a 14 ans, beaucoup de sang versé, en 1922 donc, beaucoup de sang sera versé et nul ne soutiendra les juifs. La Palestine est une sépulture pour les saints. Les justes, tzadikim, peuvent y aller afin de prier, mais tout ce que l'on y construit est voué à la destruction, comme jadis les murailles de Jéricho. Il est interdit de céder à ses instincts, et même si on a envie d'y aller, d'y aller. Bon, on voit, ces paroles sont fortes et terribles, et résument assez sa position. Il évoque... Oui, effectivement. C'est pourquoi... Oui, tout à fait. C'est une remarque juste. Il est mort peu de temps après, donc on ne sait pas ce qu'il aurait dit s'il avait vécu, bien qu'il voyait quand même un sombre avenir pour le judaïsme en Europe. Le rabbi Eleazar Shapira évoque, en tout cas dans le Minhat Eleazar, l'avertissement du Maharam, le rabbi de Meir de Rothenburg au XIIIe siècle, selon lequel, et ça c'est le fond de sa doctrine, Israël est le lieu de résidence du juif idéal et non du juif moyen. La terre d'Israël doit être exclusivement consacrée à l'accomplissement spirituel, à la prière et à l'étude de la Torah. Pourquoi ? Parce que les fautes qui sont commises en Eretz Israël, dans le palais, pèsent plus lourd que les fautes commises hors du palais. À condition toutefois que, alors je cite le rabbin de Rothenburg, à condition toutefois que le juif qui est cité par le Rav Shapira, à condition toutefois que le juif qui habite en terre d'Israël soit désormais là-bas séparé et qu'il se garde de toutes les sortes de péchés et qu'il accomplisse tous les commandements qui s'y rapportent. Car s'il y pêche, sa punition sera supérieure à celle qu'il subirait pour un péché commis hors de la terre d'Israël. Car Hachem s'en inquiète toujours de la terre d'Israël. Ses yeux sont tournés vers elle et sa providence y étant éternellement. Le rebelle de l'intérieur du palais royal ne ressemble pas à celui de l'extérieur, et c'est ce que signifie un pays qui dévore ses habitants. Et ceux qui vont là-bas et prétendent se comporter avec frivolité et s'y quereller dans leur étourderie, je leur applique les versets de Jérémie 2,7 « Mais une fois arrivé, vous avez souillé mon pays » ou d'Isaïe 1,12 « Et qui vous a demandé de fouler mes parvis ?» La littérature rabbinique polémique, qui va se chiffrer Poulmous, qui se développe tout au long du XXe siècle autour de ces positions, vise surtout d'ailleurs le sionisme religieux, non seulement le Mizrahi fondé en 1904, mais également la Goudès Israël, qui finit dans les années 30 par accepter de participer à certaines structures politiques de l'État juif en formation, et notamment à sa Knesset Israël, à la Knesset Israël du Yishuv, une participation à laquelle Razonich finira par apporter son soutien. Donc si les concepts semblent en place avant la Shoah, il faut noter que pendant et après la catastrophe, de nombreux rabbanim vont renoncer à la lecture contraignante des trois promesses, notamment le Rav Taertal, le Rav de Belz, Yaakov Rokeach, et le Rav Alberstein de Sanz. Le seul à continuer à brandir cet étendard et même avoir dans le Horben un châtiment pour le sionisme sera le Rav Teitelbaum. Son traité, Vayoel Moshe, paru au tout début des années 60, en 5721, rassemble tout son argumentaire et va impulser à la thèse idéologie des trois promesses un véritable tournant en la transformant, alors qu'elle est mentionnée, comme je l'ai dit, dans un contexte agadique, en prescription halachique majeure. Dans la préface de Vayoel Moshe, le Rav Teitelbaum, Rav Yoel, attribue la souffrance juive du XXe siècle au non-respect des trois promesses. Il renvoie à Yebamot 78b, qui discute 2 Samuel 21, vous avez tous ces textes dans le... soit dans le dossier numérique, soit dans le dossier imprimé, qui demande pourquoi a-t-il fallu 3 années de sécheresse et donc de famine pour que David finisse par interroger les Ourim et Toumim sur les causes de ce malheur et pour arriver à découvrir que la faute était en fait une faute politique, à savoir que David n'a pas prononcé en temps voulu l'éloge funèbre de son prédécesseur Saül. Donc la faute ne tenait pas ni à l'idolâtrie, ni à des écarts d'ordre sexuel. Et cette faute, en plus, a été commise par un juste et même par le monarque lui-même. Les fautes donc qui attirent, commente le Rav Teitelbaum, les punitions du ciel conséquentes à la violation des trois promesses sont donc souvent des fautes commises par des justes, comme étaient les enfants d'Ephraïm ou Rabbi Akiva soutenant Bar Korba, Bar Koziva. Et comme dans la faute du veau d'or, la colère divine et sa volonté de détruire le peuple d'Israël ne s'est pas déchaînée, dit-il, à cause du nombre relativement faible de ceux qui se sont effectivement corrompus et ont sacrifié à l'idole, mais aussi à cause de ceux qui ont commis l'idolâtrie en pensée, ceux qui se sont contentés d'apporter l'or nécessaire à l'édification de la statue ou qui se sont simplement rassemblés autour d'elle. Ici, le veau d'or devient une sorte d'archétype de la fabrication artificielle d'une royauté dont les hommes auraient pris l'initiative d'eux-mêmes, autre paradigme. Certains groupes religieux, les Temimé et Derer, qui seuls sont susceptibles de recevoir des réprimandes, se sont associés à l'entreprise sioniste, continue le Rav Teitelbaum, dans l'espoir qu'ils pourraient y introduire la Derer à Torah, la voie de la Torah. Et pour le Rav Yoel, quiconque s'associe à ces groupes pêche par la pensée. L'impureté en est la conséquence, une impureté qui, selon lui, se répand dans le monde entier. Ce qui explique que les justes souffrent autant que les pécheurs, ce qui fut le cas lors de la destruction du temple, du second temple. La violation des trois promesses et l'attraction que le sionisme a exercée sur les esprits religieux devient la cause des malheurs d'Israël. Un discours qui est difficilement audible aujourd'hui, mais que le Rav Teitelbaum entend fonder sur les sources et la halakha. Une des difficultés majeures que rencontre le Rav Yoel dans sa démonstration tient, on l'a vu, au caractère agadique des trois promesses. Une des références en matière de sources est Maïmonide, mais le Mishneh Torah ne leur confère pas de statut halakhique. Alors à cette objection, le Rav Yoel répond que le Rambam les convoque dans un autre contexte, celui de l'épître au Yémen, qui était destiné à combattre un mouvement messianique apparu dans la péninsule arabique au Yémen. À la fin de cette épître, après avoir montré plusieurs exemples de catastrophes qui ont été amenées par des tentatives de Drikat HaKetz, Maïmonide écrit, là je cite la page 188 et 107 de l'édition de la lettre du Yémen en folio, citation, tous ces événements sont conformes à la promesse des prophètes qui nous en ont informés. Comme je vous l'ai dit, à l'approche des jours du Messie véritable, se multiplieront ceux qui prétendent et pensent être le Messie. Leurs prétentions ne durent pas et ne se justifient pas, et ils se perdent et beaucoup se perdent avec eux. En effet, Salomon, que la paix soit sur lui, savait par l'Esprit Saint que notre nation, à cause de la longue durée de son exil, serait portée à s'agiter avant le temps adéquat. Se perdrait à cause de cela et s'attirerait des malheurs. Ils furent avertis de ne pas le faire et Salomon conjura la nation à l'aide d'une parabole. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les biches et les gazelles des champs, n'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il le veuille. C'est la fin de l'épître au Yémen. Alors effectivement, Isaac de Léon va finir par placer cette lettre dans un contexte halakhique au XVe siècle, dans Megillat Esther, Assagot, le Sefer HaMitzvot, le Rambam. Pour Maïmonide, la Géoula est impossible sans Teshuvah. Donc si les calamités se sont abattues sur Israël, c'est parce que les Juifs ont violé des promesses qui avaient une force de loi halakhique. Néanmoins, pour le Rav Teitelbaum, le silence des poskim, des décideurs, reste un problème sur ce sujet. Il n'y a cependant aucun doute, dit-il, qu'il s'agit bien d'une halakha, et du reste, Rabbeinu ben Samuel de Dampierre, le tosafiste, a même produit un ridouche qui prouve bien à ses yeux que les trois promesses étaient enseignées dans la période médiévale comme une halakha. Pour lui, la faiblesse de la littérature sur ce sujet tient au fait que la critique de la Drikat HaKetz, de la précipitation de la fin, représente un exercice quasiment inédit depuis pour les les sages depuis la révolte de Bar Korba. Seuls dans l'histoire des Juifs, l'affaire du Yémen ou le sabbatianisme ont été susceptibles d'en ranimer l'usage. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne s'agit pas de halakhot habituelles et que, de plus, leur validité, finalement, ne vaut que pour la période de l'exil. Autre problème, si cette disposition ne vaut que pour les périodes d'exil, on peut se demander, et il pose la question, si la déclaration Balfour ne la rend pas obsolète, comme on a vu certaines personnes orthodoxes l'envisager. Après tout, l'objection qui consiste à dire que il s'agit là d'une libération octroyée par un pouvoir non-juif, ne tient guère, car on peut très bien la comparer à ce fameux appel de Cyrus à reconstruire le temple. Alors donc, et puis il y a encore une objection qui s'oppose à la démonstration du Rav Teitelbaum et auquel il répond, les nations n'ont-elles pas finalement, avec la Shoah, enfreint la troisième promesse, celle de ne pas opprimer trop Israël? La réponse du Rav Yoel est qu'on ne peut établir de relation de dépendance ou de continuité entre la promesse que Dieu fait prêter à Israël et celle que l'on fait prêter aux nations. L'argument qui consiste à souligner que de nombreux adversaires du sionisme ont péri par la Shoah, alors que les sionistes, qui eux ont gagné la Palestine, ont joui d'un abri, à cet argument, le Rav Teitelbaum réplique que les catastrophes n'adviennent jamais qu'à cause des méchants et ne commencent toujours qu'avec les justes. La mise à mort des justes serait, selon lui, une peine collective qui s'applique collectivement à toute la génération fautive, comme une manifestation du Esther Panim, du voilement de la face. Quant aux tentatives de sauvetage menées par les sionistes, elles lui font penser à un invité qui incendie la maison de son hôte pour se féliciter d'avoir contribué à en sauver quelques meubles. Comment expliquer dès lors les succès du sionisme, hein, puisqu'il y aura même des textes du Rav Teitelbaum sur Entebbe, puisque selon le Rav Yoel, c'est un avis à vote à Touma, le père de l'impureté, dont l'impureté pèse plus lourd sur la balance que toutes les Averot et Pritzot qui ont été commises à sa génération et qui donc empêchent la Géoula. Les succès apparents de l'État sioniste, dit-il en 1948 et après, ne sont nullement le signe que Dieu soit en sa faveur, et il renvoie au prophète de mensonge à qui Dieu prête une capacité de nevoua afin d'éprouver le peuple juif. C'est un, dit-il, un nissayon, une épreuve. On pourrait considérer cette lecture du sionisme comme un refus radical du politique, la rédemption étant dans une sorte de déterminisme absolu, abandonné exclusivement à Dieu et au Messie. Pourtant, dans Vayuel Moshe, le Rav Teitelbaum met en œuvre, par le fait même d'ailleurs qu'il écrit, une forme d'action politique qui s'exprime à partir de plusieurs éléments et qui implique qu'on ne soit pas en présence d'un pur quiétisme, d'un pur non-agir, face au cours de l'histoire, et encore moins, à mon avis, d'un rejet du politique. Que doit faire le juste, demande-t-il. Le modèle convoqué par le Rav Yoel est celui d'Abraham, prêt au nom de sa piété à se dévouer pour une mitzvah que, selon le din, il n'était pas contraint d'accomplir. Et en cela, il mérite d'être appelé un chassid. A priori, une réprimande contre les sionistes ne sert à rien, puisque le viol des trois promesses constitue une faute si grave dans son système qu'elle exclut toute teshuva. Mais la réprimande, la Torahra, devient une mitzvah dès lors qu'il est impossible d'établir avec certitude que dans le clan Israël, il ne se trouverait pas d'autres justes qui seraient susceptibles de l'écouter. Il faut donc réprimander, prendre la parole, agir, voire avec énergie, si c'est le moins qu'on puisse dire, ne serait-ce qu'à cause de la minorité susceptible d'écouter, mais qui n'élève pas la voix parce qu'elle pense que ça n'aura aucune efficacité. Les tzadikim qui connaissent la Torah de Aleph à Tav, dit-il, ont donc le devoir de protester. Contrairement aux apparences, cette radicalisation dans le sens de la halakha des trois promesses, tout en refermant le champ du messianisme actif, ouvre bien celui de l'action politique dans le monde religieux. Le Rav Teitelbaum interprète d'ailleurs le Rashi sur les trois promesses, Yahad Yad Razaka, sur un mode tout aussi radicalisé de « ensemble et par force et de force ». C'est lui qui fait cette interprétation. Comme, dit-il, la conquête sioniste de la terre s'opère par une guerre contre les Arabes, la question du consentement n'est pas opportune et l'action protestataire sera logiquement le contenu concret de la politique qu'il invite à pratiquer. D'où les spectaculaires rapprochements des Satmars avec l'OLP, la Jordanie ou l'Iran, tout le monde a vu ces voyages impressionnants, Oui, mais ce qui est intéressant, c'est leur argumentaire, c'est qu'ils radicalisent une position et qui permet d'expliquer. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est comment comment le Rav Teitelbaum interprète ces gestes. Comme il relève au fond simplement de l'achat de la noute. Il s'agit de se concilier des puissances hostiles et elle s'opère sur un mode non violent. Même le vœu ardent qu'il fait pour la déconstitution de l'État d'Israël demeure dans les limites de la solidarité juive, puisqu'il veut que pas un seul juif ne soit touché par la disparition de cette entité hérétique. Je suis un peu long, je vais
continuer.
Merci. Non, vous voulez faire une pause ou... Non, ça... Alors, un exemple d'action politique menée sous l'invocation de l'idéologie radicalisée des trois promesses, et je ne ferai que l'évoquer en passant, le Rav Chaim Michael Dov Weissmandel, qui est une personnalité absolument exceptionnelle et qui fournit vraiment l'illustration d'un homme qui, tout en adhérant à ce que nous avons défini comme cette idéologie des trois promesses, n'en a pas moins mené une incroyable activité politique pendant la guerre. À la veille de sa mort en 1957, cet homme qui, après avoir perdu sa famille, en a reconstitué une autre dans son exil américain, a livré son expérience amère dans un ouvrage intitulé « Mina Metzar », connu pour contenir des reproches terribles et amers contre l'action ou l'inaction supposée des sionistes dans cette période de destruction. Lui a été en Slovaquie un des piliers du VAD Apsala, le groupe de travail, qui s'est efforcé d'empêcher d'abord la déportation des Juifs de Slovaquie, puis d'alerter le monde sur la réalité d'Auschwitz. On trouve dans cet ouvrage, passionnant à bien des égards, moins de débats halachiques que des souvenirs, parfois d'ailleurs ordonnés sur un mode difficilement compréhensible, et des tableaux absolument saisissants, notamment de la rafle de Tirnau et de Nitra, qui a été la dernière yeshiva en activité dans l'Europe occupée et qu'il restera jusqu'en fin 1944, qui était en même temps un point de passage clandestin vers la Hongrie toute proche, sous la direction du Rav Ungar. Bon, donc nous sommes bien en présence d'une politique active et dont les jugements de valeur sont d'ailleurs même parfois modérés par l'expérience d'un militant de l'orthodoxie, mais qui au moment du danger a cherché avant tout l'unité, fût-ce même contre l'avis de ses pairs, avec les néologues, par exemple, ou avec une militante sioniste comme Gizi Fleischmann, dont il parle avec beaucoup d'éloges. Ça donne d'autant plus de prix aux réflexions qu'engage l'auteur de ses mémoires, presque à vif. L'éditeur cite en ouverture une lettre du Rav Weissmandel, dans laquelle celui-ci, vous l'avez en extrait, reproche aux juifs de l'étranger d'avoir manifesté haut et fort à New York contre le boycott des magasins juifs en Allemagne, action qui, selon lui, a mis en danger ceux qui étaient directement exposés à l'hitlérisme en Europe et qui n'a fait qu'accroître leur maux en rejetant. Et il leur reproche, au fond, d'avoir rejeté inconsidérément l'attitude de soumission traditionnelle et l'achat de la note. Alors je cite, car il s'en tenait à l'opinion fausse qui faisait un objet de risée de la soumission des générations précédentes. Et par la puissance de cette opinion, la majorité ou presque d'Israël s'est engagée dans la politique du national, le mot étant en hébreu, mais c'est le mot politique, du nationalisme, entre guillemets, et dans les voies de la revendication énergique. Et à l'heure où la plupart des enfants et des fidèles d'Israël étaient laissés à l'abandon, foulés aux pieds de ce monstre, Hitler, et de ses sbires, les gouvernements des pays satellites de l'Allemagne maudite, des idiots de juifs, depuis leur abri sûr dans les pays libres, à coups de revues et de manifestations, s'entêtaient à présenter des exigences blâmables et à sonner du chauffard devant le consulat de l'horrible Allemagne. Et comme si cela ne suffisait pas, bien qu'ils aient accru la fureur et l'excitation des dirigeants insensés de l'Allemagne, en augmentant leur folie par leur sotte action de boycott bien connue de 5693-1933, alors qu'à cette époque les nations étaient encore en paix et au calme avec ce monstre, alors qu'il y avait une autre voie au moins à tenter, laquelle passait par la soumission, l'humilité, le profil bas, des paroles de conciliation et de séduction, ces dirigeants autoproclamés ont fait le contraire de la voie dictée par la sagesse, le contraire de la promesse, les trois promesses apparaissent ici, faites au saint béni soit-il, et ont contribué pour une grande part à amener le degré de folie de ce chien enragé à un niveau supérieur. Donc c'est tout ce texte, je le trouve tout à fait extraordinaire, parce que il va directement contre tout ce qu'on considère comme l'apport au fond de la révolution sioniste, à savoir la fierté, le fait de parler haut et fort, etc., en montrant avec une certaine habileté les effets désastreux que cela a pu avoir. Bon, après, on peut contester son point de vue, bien sûr, mais je le trouve intéressant. En outre, il est intéressant parce qu'il fait évidemment explicitement référence aux trois promesses, et d'ailleurs la citation du Cantique des Cantiques se trouve à quelques versets seulement de celui qui leur sert de référence. Et enfin, cette lecture est d'autant plus intéressante qu'elle émane d'un homme qui n'a eu rien d'inquiétiste, hein, je le répète, et qui au contraire s'est démené dans des actions de sauvetage. Et qui avait également le sens de l'unité. D'ailleurs, la Stadlanout, il est assez lucide sur la Stadlanout, le Rav Weissmandel, et il ne la valorise pas en tant que telle. Il est bien obligé de constater que lorsqu'en mars-mai 1942, quand le régime de Joseph Tissot fait voter le Parlement slovaque pour avaliser le décret autorisant la déportation des Juifs vers l'Allemagne, le Rav Weissmandel s'aperçoit qu'auprès des députés et des ministres fanatiques, le vieux moyen de la corruption ne fonctionne plus ou plus aussi bien. Il résume d'ailleurs dans son livre quelles sont les options politiques, de politique concrète et réelle qui se présentent à lui. Quatre types d'options ont été examinées en faveur de cette influence, dit-il, sur les députés, par la voie de la politique. 1. Le mémorandum imprimé à expédier à chaque membre du Parlement. 2. L'influence individuelle exercée par des juifs sur des députés. 3. L'influence des rabbins, de synagogues ou de communautés importantes sur les dignitaires du clergé local. 4. Une lettre adressée au pape de la part de l'ensemble du comité, orthodoxe, néologue et au nom de tous les rabbins. Bon, c'est la lettre au pape qui finit par être privilégiée. Quant aux interventions auprès du clergé local, elles seront contrées par l'antisémitisme virulent que le rabbin rencontre chez la plupart des prêtres et des prélats, dont ses mémoires donnent un témoignage assez terrible. Et pour dire le pape sollicité se contentera de répondre sur un mode ambigu qu'il est attaché à deux principes, ne pas séparer les familles, ce qui souligne le Rav Weissmandel rend possible de les déporter entières, et épargner les juifs convertis au catholicisme. Bon, j'arrête là parce que nous serions emmenés un peu loin de notre propos dans une discussion de type historiographique sur la Shoah. Ce qu'on peut retenir, c'est que les trois promesses, contrairement à l'idée habituelle, peuvent définir une politique dont les contours sont non seulement l'attention au temps, mais aussi à l'unité. Cette unité, certains orthodoxes, transformés par l'expérience de la Shoah, vont, au contraire du Rav Teitelbaum et du Rav Weissmandel, la rechercher avec ceux qui construisent le pays, en proposant une relecture des textes et des sources utilisées par les adversaires orthodoxes du sionisme pour aboutir à une conclusion radicalement différente des leurs, fût-ce après avoir partagé leur opinion. Donc c'est ma dernière partie, je ne sais pas si je suis exagérément long. Que j'ai intitulé le Rav Taichtal, promesse de l'unité et exil comme déliaison. Alors, le Rav Taichtal et son livre Mina Metzar, qui alors, on est en plein dans l'actualité. Emma Banim Smecha, comme une mère qui attend ses enfants, qui vient tout juste d'être traduit, à la différence du livre du Rav Eis Mandel. Constitue un cas à la fois singulier de retournement intellectuel et de réflexion sur une politique tirée de la Torah qui émane des milieux mêmes qui avaient énergiquement combattu le sionisme dans la foulée dans la suite du rabbi de Munkach. En effet, le Rav Taichtal a participé au volume collectif Tikkun Olam en 5798, et avait écrit « Toute action, à propos du sionisme, une condamnation ferme, toute action et activité humaine, avait-il écrit, ne sert en rien à relever le prestige de Sion et de Jérusalem, tant qu'Hachem ne regardera pas depuis les cieux afin de répandre sur nous tous un esprit céleste de pureté. Or, les circonstances, la Shoah en l'occurrence, vont profondément modifier son point de vue et le rendre favorable à la Bniyat Haaretz. » À la construction de la terre d'Israël, ce qui d'ailleurs va l'exposer, dit-il, quand il écrit Emma Banim Smecha, à être parfois interdit de parole dans certaines synagogues de la Hongrie où il s'est réfugié en 1944, un an avant son assassinat par les nazis. Alors, voyons rapidement son argumentaire. Tout d'abord, comme je viens de le dire, le Rav Taichtal réinvestit le matériel de référence utilisé pour conférer une valeur halakhique aux trois promesses. Mais il aboutit à une conclusion inverse. En effet, il puise dans l'épître du Yémen l'idée que la venue du Messie s'opère de façon graduelle, léat léat, et notamment il convoque également l'exemple des Bnei Ephraïm qui ont mal calculé la venue du Messie. Maïmonide dit en effet dans la lettre, dans l'épître du Yémen, « Tu peux raisonner a fortiori à partir de cette fin dont le terme est explicite et qui ne fut pourtant pas connu. À plus forte raison, ne connaît-on pas cette fin lointaine que redoutaient les prophètes et qui les faisait trembler en raison de son éloignement, au point que les prophètes disent de façon étonnée, « Seras-tu à jamais courroucé contre moi? Feras-tu d'âge en âge durer ton ressentiment ?» C'est psaume 85, 6, fin de citation. Maïmonide ajoute quand même dans ce raisonnement de l'épître Yémen qu'on ne peut pour autant incriminer Rav Saadia Gaon d'avoir supputé la fin des temps et de s'être trompé parce qu'il l'a fait pour une bonne raison, dit-il, que nous pourrions qualifier de politique pour rassembler la foule du peuple au moyen du calcul de la fin et pour combattre les opinions égarées. Cette notion de rédemption naturelle, lente, progressive, permet à la fois de concilier la tradition de neutralisation du messianisme actif sans pour autant rejeter la Bniyat Haaretz par les sionistes. Le Rav Taichtal cite aussi le Netzar Israël du Maharal de Prague qui estime que l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu pour Israël fait qu'il conduit son peuple par des miracles s'il est méritant et par des voies naturelles s'ils ne sont pas. Et donc cela s'applique à ceux qu'il appelle les pionniers, qui agissent indépendamment du miracle messianique. Et, dit-il, pour lui, le juif de l'exil, c'est avant tout celui qui se désolidarise. Et en ce sens, l'émancipation a enfoncé les Juifs dans leur exil, puisqu'elle a eu pour effet de dissoudre cette solidarité, et ce reproche, il l'adresse à ses pères, à ses frères du milieu orthodoxe même. Au temps et à l'unité, nous sommes donc amené à ajouter une troisième définition de la politique juive, la solidarité, qui définit le rapport à l'exil. La conception d'une rédemption progressive permet en outre de contre-argumenter face à la thèse selon laquelle la rédemption ne peut être que le fruit d'un miracle et qu'elle est exclusivement entre les mains d'Hachem et que par conséquent la Bniyat Haaretz constituerait une forme de précipitation de la fin, Drikat HaKetz, qui ferait obstacle. Au contraire, pour le Rav Tahirtal, elle est un signe que cette rédemption est en cours. Si elle s'opère sur un mode progressif, c'est que notre génération est une génération de pécheurs et qu'elle n'a pas le droit à la rédemption miraculeuse, à une descente directe du ciel du troisième temple avec ses murs de feu. Mais rien n'empêche d'en construire l'emplacement, dit-il. Notre génération est comparée à celle du retour de Babylone et d'Ezra. Le livre d'Ezra, d'ailleurs, constitue dans ce débat une référence constante, ainsi que le sort des enfants d'Éphraïm, partis trop tôt d'Égypte. En revanche, je dois dire que les allusions à la Megillah sont rares et presque inexistantes. L'histoire d'Israël, note le Rav Tahirtal, a été jalonnée de malheurs, mais c'est la première fois depuis des millénaires que le mouvement de retour se manifeste et que, selon lui, ça a un sens. Pour lui, donc, le pays doit devenir habitable et fertile avant le rassemblement des exilés. À titre d'indice, le Rav Tahirtal fait observer que ce n'est pas par hasard que la bénédiction dans la Amida, Mevarer Hashanim, précède immédiatement Tekab Shofar Gadol Rehutenu. Israël ne doit donc pas compter uniquement sur Dieu et sur la seule prière. Et là encore, la neutralisation du messianisme n'implique pas la passivité totale. La difficulté demeure de comprendre comment ceux qui préparent ainsi à leur insu la rédemption peuvent être en même temps des profanateurs qui, dit-il, vivent comme des goïms. La réponse du Rav Tahirtal se déploie en plusieurs temps. Il fait d'abord observer que l'oiseau qui doit annoncer le Messie est un oiseau non cachère. De même, les pionniers sionistes sont-ils les messagers de la rédemption? Ce sont les pêcheurs d'Israël qui annonceront la rédemption par une sorte d'antinomisme inversé. Il se base sur Houlin 63a, dont vous avez l'extrait, je crois, dans le dossier numérique. Et ajoute-t-il, le défaut de ferveur n'empêche pas de réaliser une mitzvah. Et même le juif le plus vil, dit-il, appartient à la nation juive. D'ailleurs, citant le rab de Vichnitz, puisque ce sont les birionim qui ont détruit le pays, il est naturel que ce soit les birionim qui le reconstruisent. D'autant plus, ajoute-t-il, que nous approchons, dit-il, du septième millénaire et que la rédemption doit avoir lieu avant le millénaire shabbatique, dit-il. De même, pour lui, le temple doit être construit 40 ans avant la venue du Messie et par Edom. Et si Edom, dit-il, est appelé Hazir, c'est parce qu'il va rendre le Hazir à la couronne sa gloire initiale. Donc, il justifie par là la déclaration Balfour. Et comme nous ignorons de quelle façon va se produire la rédemption, à son avis, on ne peut rien dédaigner de ce qui en constitue peut-être le début, le retour en Eretz Israël avec l'assentiment des souverains étrangers, perses, britanniques, etc. À l'époque du retour de Babylone, le retour a été rendu possible par Cyrus et non par les tzadikim, qui, souligne-t-il, eux ont préféré rester demeurer sur place en galoute, alors que la lie du peuple, c'est elle qui a suivi Ezra et Néhémie, idolâtres, mariés à des non-juifs, etc. Si le Saint béni soit-il empêche la montée des tzadikim, c'est, dit le Rav Tahirtal, pour empêcher la dispute et la désunion que pourrait susciter à leurs yeux l'attitude des pionniers qui sont des birionim. Or, tant que nous suivons le cours naturel des choses, nous n'avons pas à être, dit-il, mieux ni moins bien que les autres nations. Dieu n'a pas fait de miracle pour Jacob, il revêt sa présence ici-bas d'un aspect naturel. S'ensuit une critique des Makpidim de son milieu orthodoxe, et la référence dans ce biblique convoqué dans ce débat autour des trois promesses est le récit des explorateurs qui illustre, comme plus tard Laban, l'erreur dans laquelle s'enfoncent les Makpidim quand ils se montrent hostiles à la reconstruction du pays avant l'arrivée du Messie. Il souligne que les explorateurs étaient sages et versés dans l'étude, et finalement, au fond, ce qu'ils préféraient, un petit peu comme les milieux orthodoxes d'Europe, préféraient continuer à étudier la Torah dans la bouche de Moïse dans le désert que de combattre pour hériter de la terre. Aujourd'hui, affirme le Rafta Ertal, ceux qui font de la propagande pour hériter de la terre, de la propagande contre Eretz Israël, contre le sionisme, reproduisent le péché des explorateurs. Quant à Laban, c'est aussi par un zèle mal placé qu'il a retardé la venue de la rédemption par les fils de Jacob, s'ils avaient été issus de Rachel, en soutenant qu'il était impossible de marier la cadette avant l'aînée. Il s'est montré macpide. Mais ce texte étonnant, saurais dire toutes les richesses ce soir, ne se réduit pas à polémiquer avec son ancien milieu. Ils parlent leur langage et se présentent comme une discussion halachique, en l'occurrence une réfutation du Minchat Elazar, du Rabbi de Monkach, qui se refuse à compter le Yishuv Eretz Israël au nombre des mitzvot. Le Rafta Ertal s'efforce de démontrer à l'inverse que le Rambam fait bien du Yishuv Eretz Israël une mitzvah de la Torah, Mideoraita, et même de celles qui contiennent toute la Torah, une mitzvah englobante, ce qui explique pourquoi d'ailleurs il d'après lui, par un raisonnement étonnant, pourquoi il ne la citerait pas. Donc pourquoi le Rambam ne la compte pas comme une des 613 mitzvot? Parce que d'après lui, il ne compte pas les mitzvahs qui englobent l'ensemble des autres mitzvot. Alors là, on est renvoyé à Gödel et à l'incomplétude des systèmes. Il faudrait développer, mais comme M. Salankis n'est pas là, je passe. Sur la question du silence de Dieu pendant le Rorban, dont le Rav Tertal sera une des victimes, ce dernier inverse la proposition qui sera plus tard celle du Rav Teitelbaum, le Rorben comme châtiment du viol des trois promesses. Pour le Rav Teitelbaum, Dieu veut que les Juifs se consacrent au retour en Eretz Israël dans un effort de reconstruction collective. Le Rav Teitelbaum propose ainsi une autre lecture dans l'expression que l'on trouve dans Ketubot, Bachoma. Bachoma ne veut plus dire par la force, comme chez le Rav Teitelbaum, ni même de façon organisée, mais, et je cite un petit peu ce passage dans la traduction de Shlomo Brodovitch, citation, « Il ne suffit pas que des individus achètent à titre privé des terres en Eretz Israël, c'est la communauté d'Israël tout entière qui doit s'impliquer dans cette tâche. Cela suppose que chaque communauté juive, de concert avec les autres, aide à construire le pays. Alors le maître Hachem nous pardonnera la négligence dont nous avons fait preuve jusqu'à présent. J'ai également cité l'éminent auteur d'Ezrat Kohanim, qui affirme que c'est à tout Israël, à titre collectif, qu'incombe le devoir de reconstruire le temple. Si la chose n'est accomplie qu'à travers un seul individu, elle ne revêt aucune valeur, car c'est une tâche collective. De plus, il est à prévoir que lorsque la guerre prendra fin, bon, il y avait une accalmie dans la Hongrie du printemps 44 avant l'invasion allemande, les nations accorderont au peuple juif la permission de revenir prendre possession de son héritage. S'il en va ainsi, alors cette obligation incombera indiscutablement à l'intégralité d'Israël et constituera un enjeu collectif et non individuel. Rashba, le fils de Tachbetz, explique en profondeur le commandement du positif du Yishuv Eretz Israël dans ses responsables. Il écrit que la mitzvah de monter au pays constitue un devoir individuel et n'incombe pas à la nation à titre collectif. Ceci en raison du fait que nous avons fait le serment de ne pas monter comme une muraille, Bachoma, c'est-à-dire contre la volonté des nations. C'est donc l'interprétation qu'il donne de Bachoma, contre la volonté des nations. Cependant, après que les nations nous auront accordé la permission de prendre possession d'Eretz Israël et d'y monter, cette mitzvah sera de nouveau en vigueur pour la nation tout entière. Alors, en plus du fait que chaque individu doit s'efforcer de revenir, ce sera une obligation collective. Si les nations nous ont opprimés à ce point, conclut le Rav Tarirtal, c'est parce que nous nous sommes réjouis de notre sort en exil. Notre négligence à rebâtir la terre est la cause, dit-il, de nos malheurs. Alors, quelques mots, j'ai parlé trop longtemps, donc je fais juste quelques mots de conclusion, en soulignant trois points pour conclure et ouvrir la discussion. Ce que l'ouvrage, premier point, ce que l'ouvrage du Rav Tarirtal établit à l'évidence, c'est l'importance du clivage entre messianisme passif et actif, tous deux déterminant une politique et non, comme on l'a vu, une polarité entre inactivité, quiétisme et action politique. On peut dire, pour résumer, le messianisme fait bien une politique, et pas seulement une politique sioniste religieuse. Telle serait la conclusion provisoire dont je propose de débattre. Deuxième point, dans le rejet orthodoxe du sionisme, on est tenté de voir une simple manifestation du conservatisme de milieu traditionnalisme exposé à une action politique visant la terre d'Israël, mais menée par des porqués à ol, des gens qui secouent le joug de la Torah. Mais comme le suggère Yitzhak Melamed, on peut aussi déceler une véritable critique du nationalisme moderne, pourquoi pas, qui irait au-delà de la critique du sionisme. Il s'agit de définir une véritable politique de l'exil sans pour autant céder à l'attrait du séculier ou de la normalisation de l'existence juive, en fondant l'action sur les sources, tout en conservant au maximum l'authenticité ou la singularité de ce que Shmuel Eisenstadt appelait la civilisation juive. Est-ce que cette esquisse d'une autre politique juive contredit le paradigme du gardien? Alors voilà de quoi je nous laisse parler ensemble en arrêtant ici mon propos.
Merci beaucoup Nicolas. Merci. Alors on va passer aux interactions.
Denis.
J'ai pas demandé la parole, hein, mais je l'ai reçu. Non, je merci pour cet exposé tout à fait éclairant. Alors, ce qui me frappe, c'est que ce que vous appelez le paradigme des trois serments, jusqu'à la venue du sionisme, était en quelque sorte complètement routinisé et de l'ordre d'une espèce d'évidence qui n'avait pas, il n'y avait aucune raison de gloser, mis à part Maïmonide peut-être, mais il n'y avait pas de raison de se centrer sur cette question. Et là, naturellement, c'est au centre de l'attention parce que le monde traditionnel est mis sous pression. Alors, sous une telle pression, on voit bien que ça éclate complètement. C'est-à-dire, ce que vous nous avez expliqué, on voit entre le Rav Tarirtal et le Rav Teitelbaum, c'est une opposition radicale. Il n'y a aucune conciliation possible. Ce qui veut dire que c'est bien le monde orthodoxe qui, du point de vue d'une politique juive, entre dans la crise. Là, on est complètement désorienté, en quelque sorte. Il y a deux orientations antinomiques qui paraissent toutes les deux, du point de vue de la glose qu'on peut faire ou des commentaires qu'on peut faire, peut-être raisonnables, j'en sais rien, mais en tous les cas, elles ont l'air d'être élaborées par des gens qui ont autorité à le faire. Alors, deuxième point, c'est que ça a été beaucoup effectivement discuté dans le monde orthodoxe. Est-ce que le sionisme, c'est en quelque sorte l'âne du Messie, hein? Est-ce que c'est l'âne du Messie? Est-ce que c'est bien un âne? C'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'est pas spécialement malin, mais il est très endurant, et pour finir, c'est le Messie qui va s'annoncer parce qu'il est juste sur son dos. Donc ça, c'était une manière de rendre de rendre les deux mondes en quelque sorte compatibles. Et on a, vous nous en avez donné des exemples sous la forme de la solidarité, le fait que quand même le sionisme solidarisait les juifs de l'exil alors que l'assimilation semble avoir entamé la solidarité, etc. Alors, sur... Naturellement, tout votre exposé suppose que la politique juive soit messianique. Elle, ce que j'ai essayé de dire par l'axiomatique du gardien, c'est que précisément, ce n'est que, je dis la moitié, ce n'est pas une question de proportion, elle est sous un certain angle et elle n'est pas sous un autre. Et naturellement, si on veut lire l'axiomatique du gardien comme étant, disons, comme entrant en discussion de l'intérieur de la tradition messianique, ce n'est pas possible, ou c'est presque pas possible. Ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il y a une politique juive qui n'est pas messianique. C'est-à-dire qui, en fait, ne se préoccupe pas de la question du rapport, qui ne se préoccupe pas de la restauration, parce que c'est quand même ça la politique, c'est la question de la restauration du royaume. Et du coup, c'est une politique qui ne vise pas la fin de l'exil. La politique messianique vise la fin de l'exil. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, on a vu pour tous les rabbins, le problème c'est la faute. Quelle faute? Qui a commis la faute? Est-ce que c'est les meilleurs qui ont fait les pires fautes et les méchants qui ont conduit? Tout le problème, c'est l'exil procède d'une faute. Et donc, il va falloir réparer pour que l'exil touche à sa fin. Ça, c'est ce que dit la tradition. C'est le problème de la tradition messianique. Ce que j'ai essayé de faire en disant tradition du gardien, c'est une tradition anti-messianique. Non pas qu'elle s'oppose au messianisme, mais elle a seulement pour but de meubler la politique entre, disons, le début de l'exil et l'attente de sa fin. Donc c'est une politique, et c'est pour ça qu'elle n'a pas vraiment de lettres de noblesse, qu'elle a, on dit, Shtadlanout, c'est un côté un peu compromission, collaboration, enfin, et on voit là, dans l'exemple que vous avez pris, que je ne connais pas, de Weissmandel, le texte que vous avez lu est tellement faux. C'est-à-dire que le type n'a apparemment aucune conscience de la situation politique dans laquelle il est immergé. On dirait qu'il prêche une politique munichoise. Il dit, ah, mais si on avait été un peu plus gentil avec Hitler, peut-être qu'il nous aurait quand même, que les forces ne seraient pas déchaînées, etc. C'est une vue historique qu'on sait aujourd'hui, du point de vue historiographique, parce qu'on dispose, lui, naturellement, il est immergé dans la situation. Je lui fais aucun reproche. Et apparemment, il est très courageux, etc. Mais c'est complètement, en fait, c'est complètement irréaliste. Alors, le point de contact, peut-être, qu'il y a entre une politique messianique et la politique du gardien, c'est la question que vous avez soulevée de Cyrus. C'est la question de la fonction du roi impérial, qui naturellement, lui, c'est ni les juifs ni Dieu. C'est le pouvoir étranger qui domine Israël et qui, lui, effectivement, a deux fonctions. Une qui n'est pas messianique, qui est de conserver le peuple, donc la fonction de protection, mais qui, à travers Cyrus, Balfour, enfin, on peut ajouter tous les Cyrus de l'histoire qui se sont succédés, peut promettre aussi la restauration. Et c'est pour ça que dans la Bible, Cyrus est qualifié de Mashiach. Il est qualifié de Mashiach, Cyrus. Et là, naturellement, il y a un point d'intersection entre la tradition, disons, de l'Hashtag de la Nout et la tradition messianique. Mais alors, il faut bien entendre que l'idée même d'être sauvé et l'idée de rédemption sont en quelque sorte, en hébreu, souvent des synonymes. Être sauvé et être rédimé, c'est très compliqué à distinguer et à savoir exactement quelle est la différence entre une simple restauration et le caractère sublime qu'on a fini par accorder au temps messianique et qu'on appelle généralement rédemption. On appelle rédemption. Alors, comment est-ce que dans la tradition du gardien, pourtant des rabbins se sont quand même engouffrés? Alors là, il faut regarder la position du seul rabbin disons, qui avait une grande notoriété, qui s'est rangé du côté de Herzl, c'est Reines. Et ce qui est intéressant, donc c'est le fondateur du Mizrahi. Il se rapproche de Herzl en 1902 et il participe à la chose. Mais en fait, Reines, il est attaché au sionisme comme simple territorialisme. Il ne rejoint pas Herzl parce que Herzl se recueillerait quelque chose de la tradition messianique. Il rejoint Herzl parce qu'il voit bien qu'il va falloir trouver une solution qui n'est pas du tout de l'ordre messianique, mais qui est d'ordre, on va dire, de la gestion de la vie politique des Juifs, de la gestion pratique. Et donc, Reines, dans un premier temps, va soutenir la position Ouganda. Alors là, on a une position très singulière, qui ne suppose pas du tout de discuter la question des trois serments, mais qui bascule du côté de l'autre politique, qui est celle de l'axiomatique du gardien, où on cherche, en quelque sorte, disons, de préserver ou de protéger ou de faire protéger le peuple en exil, bien entendu. Pour Reines, la solution ougandaise, c'était naturellement pas la rédemption. Donc voilà, c'est là-dessus, disons, que se joue le déplacement que j'ai essayé de faire. C'est de sortir de la tradition messianique pour montrer qu'il y a une place pour la politique, et qui n'est pas le messianisme du peuple, qui est une autre politique qui n'est pas messianique. Voilà, c'est tout.
Sur ce que vous avez dit, effectivement, sur l'aspect que vous avez cité de Raphaël Herzl, qui dit sur la seconde moire d'un coup,
l'assimilation l'a détruite, on s'est mis à avoir alors qu'avant on avait des rabbinimes, tout simplement, on s'est mis à avoir des rabbins polonais et des rabbins allemands qui ne voulaient pas. Donc ça, si effectivement il est très sensible, et le monde orthodoxe est d'ailleurs assez sensible à cela, et là il y a une espèce de critique de l'état-nation moderne et des méfaits de l'état-nation moderne qui est vraiment intéressante dans tous ces textes, derrière leur emphase et leur violence parfois, ça c'est sûr. Alors sur Reines, bien sûr, c'est vrai, je voulais en parler de Reines, et effectivement lui avait dans ses écrits souligné la distinction qu'il fallait faire à ses yeux entre l'idée de rédemption, le messianisme, et le pragmatisme que représentait la révolution sioniste, le sionisme, etc. Mais cela dit, si on voit l'évolution du mouvement qu'il a fondé, ça s'est complètement renversé. Donc peut-être cette position, alors je ne sais pas si cette position était tenable dès le départ, mais en tout cas, l'autre paradigme l'a absorbé. Et finalement, peut-être la tension entre les deux paradigmes serait la bonne politique juive. On pourrait finalement essayer d'élaborer quelque chose comme ça, si on voulait faire un travail positif de définition, de code, voire de constitution de la politique juive. Mais néanmoins, on voit bien que l'un, souvent, exclut l'autre. Alors, et que finalement, on n'arrive pas à tenir, on n'arrive pas, dans l'histoire juive moderne, on n'arrive pas à tenir cette idée qu'on pourrait concevoir le retour des juifs sur le territoire d'Israël, le territoire où a été le temple, etc., comme une simple... comme un simple voyage en avion ou en bateau d'un point à un autre, et que finalement même la question en tout cas du sens de ce rassemblement est posée, et effectivement non seulement met sous pression le monde orthodoxe, mais le monde orthodoxe essaie de lui donner des réponses, et il ne peut le faire effectivement qu'en termes messianique, mais d'une certaine manière, cette opposition que vous faites, elle est évidemment justifiée conceptuellement, mais elle me paraît finalement poreuse. Enfin, ce serait intéressant de creuser.
Bernard, l'autre pièce.
Oui, je voulais poser une question à Nicolas, c'est pourquoi il n'a pas abordé la figure du Rav Kook, du père, j'entends. Parce que toutes ces problématiques, lui, il les a posées de manière, à mon avis, intéressante. C'est quand même, il était le premier grand rabbin d'Israël avant la catastrophe. Il a été avec les communautés arédites au début, ça a été difficile. Il y avait tout son rapport avec le Rav Zonenfeld, tous ces gens-là. Mais c'est quelqu'un qui, justement, considérait l'unité du peuple. Il disait, chez les communistes, les socialistes qui construisaient ce pays, tous les anciens bouffeurs de rabbins, pour être très clair, malgré eux, ils étaient en train de réaliser le plan. Il y a cette fameuse anecdote où ils descendent, je ne sais plus dans quel yishuv avec le Rav Zonenfeld, il dit « je vais te prouver que ce sont des bons juifs ». Alors ils arrivent là-bas, il n'y a que des types à les manches retroussées qui le regardent, puis qui dit « je vais vous raconter une histoire ». Il dit « tu vas voir, je vais raconter une histoire ». Il dit « voilà, c'est l'histoire d'un milliardaire américain qui voudrait faire quelque chose pour le yishuv ». Il dit « qu'est-ce que... je peux faire, j'ai une idée, peut-être que je pourrais construire une grande porcherie sur le monde du temple ». Alors, il y a tous les types dans la gueule, ne savent pas la tête. Il dit, je te l'avais dit que c'était des bons juifs. Je veux dire, je trouve que c'est quelqu'un qui avait essayé de réfléchir ça. Je ne parle pas de ce que c'est devenu ses successeurs, mais ce qu'il a, lui, pensé à cette époque-là, je trouve que c'est au cœur de toutes ces problématiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est dit, il faut trouver des solutions, mais qui, en même temps, c'est lui, en tant que... grand connaisseur de la Kabbalah, il voyait dans tout ce qui est en train de se passer quelque chose d'une direction qui a mené, disons, à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire.
Oui.
C'était à la fois pragmatique et peut-être un peu moins plus visionnaire que ça.
Oui, vous avez raison. Bon, j'aurais pu parler du Rav Kook, ou de Kanifier. Le cas là, il y a énormément. Au fond, c'est un débat. C'est un débat énorme qui est d'ailleurs, à mon avis, toujours en cours, hein, même s'il est peut-être moins virulent qu'avant la création de l'État, puisque l'enjeu de la création de l'État n'existe plus. Mais chez le Rav Kook, il y a cette vision. C'est intéressant parce que il y a quand même cette idée que, au fond, le véritable État juif doit être un État de la Torah. C'est ça l'objectif, et que les pionniers, ce qu'on appelait les pionniers, sont au fond ne sont rien d'autre qu'un réservoir de la Teshuvah future, identité que eux refusent et rejettent. Donc, d'une certaine manière, le Rav Kook, la théorie du Rav Kook n'a pas fait consensus finalement, n'a pas réussi à réunir les deux paradigmes. Et elle a en revanche engendré un messianisme extrêmement actif. Voilà, on peut juger en bien ou en mal, peu importe. Alors, mais effectivement, c'était juste pour ne pas rallonger mon propos exagérément. Et j'ai voulu, parce que je pense que c'est quand même moins connu, parler un peu plus des adversaires du sionisme dans le monde orthodoxe, qui ont au fond, dont on oublie qu'ils ont aussi des arguments. Voilà, des arguments et des réflexions fondées sur la halakha. On s'en tient. Bon, j'ai évoqué les images des satmeurs en Iran ou protestants dès qu'un Israélien vient faire une visite à Washington, etc. Mais je voulais aussi montrer qu'ils avaient des arguments intéressants. Par exemple, dans une rencontre publique, il y a un satmeur, d'ailleurs en Israël, qui a dit que pour lui, le sionisme, ça signifiait faire la guerre à toutes les nations. Et pourquoi, disait-il, Israël devrait-il, le peuple juif devrait-il déclarer la guerre à toutes les nations? J'ai trouvé que c'était intéressant comme d'explorer un petit peu le soubassement halakhique, idéologique, etc. Et j'ai essayé de l'explorer à partir des trois promesses. Donc voilà, c'était juste une question de méthode, mais pas du tout d'exclusion.
Sur la droite, Eva, attendez.
Nicolas, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Je connaissais certaines des thèses, mais vous avez fouillé vraiment le sujet, et on a quand même l'impression que dans votre sentiment personnel, c'est quand même une position pure, cette position-là, cette position des rabbins, et cette position, on a l'impression que vous la présentez comme un modèle, même si elle n'est pas très réalisable. Moi, je vais vous donner mon sentiment, je suis choquée. Je trouve que c'est une position schismatique et christianisante. Demander d'attendre la Jérusalem céleste quand on construit la Jérusalem terrestre, demander de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et avoir cette position-là, elle est à la limite criminelle pour moi. Donc je suis absolument scandalisée par ce purisme, et je crois qu'à terme, on arrive à un moment qui est exactement le moment du schisme chrétien, enfin le schisme qui a entraîné le christianisme. Voilà mon sentiment.
Oui, non, mais je peux répondre. Je pense qu'il y a une chose, et la violence extrême des textes, de certains textes, d'abord qui tiennent aux circonstances dans lesquelles certains ont été écrits, et aux expériences personnelles de ceux qui les ont écrits, aussi à la fameuse Melitza rabbinique qui. Aussi à l'enjeu qui est aux yeux par exemple du Rav Teitelbaum, le fait que le sionisme à ses yeux est un obstacle à la venue du Messie, et également elle part souvent d'un amour affirmé, y compris chez le Munkacher Rabbi, de la terre d'Israël. D'un amour tellement... Je pense pas que la comparaison avec le schismatisme me paraît pas tout à fait juste, parce que finalement ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est les mêmes sources qui peuvent être interprétées différemment, au-delà des excès, des invectives, parfois même du lachon hara, il y a quand même un terreau commun.
On a froid dans le dos d'entendre les positions, un petit peu avant la Shoah, de ces dirigeants de communautés qui ont pu prôner un tel discours en disant qu'il faut encore en réalité et se battre la coupe. Enfin, vraiment, ça a un côté absolument insoutenable.
Mais pour le monde, il ne faut pas non plus oublier, ça c'est une discussion plutôt historique, je dirais que théorique, que le monde religieux en Europe reste sur un traumatisme de long terme qui est sur plusieurs traumatismes d'ailleurs, mais d'abord celui du sabbatianisme qui a été une énorme, qui a eu des conséquences considérables intellectuelles notamment. Sous le traumatisme de la réforme et de Mendelssohn, qui d'ailleurs était très hostile à tout retour en Eretz Israël. Il disait Mendelssohn que c'était l'affaire de la prière seulement, que désormais le retour en Israël, c'est cité par Abiravetsky, n'était plus qu'une affaire de prière et de synagogue, et donc c'est peut-être aussi là qu'on trouve les positions anti-Bniyat Haaretz les plus radicales d'ailleurs, et par le traumatisme de la sécularisation, de l'émancipation. Donc cela explique aussi peut-être que aux yeux, par exemple, du Rav Teitelbaum et des autres rabbanim, la chose aboutissent à des positions aussi radicales, à des lectures aussi radicales, encore une fois des mêmes sources qu'utilisent d'autres commentateurs dans un autre sens.
Oui, donc je me permettrai juste une remarque. La première, c'est de dire que finalement le sionisme, c'est l'idéologie qui a réussi, au 19e et au 20e siècle. Il y a eu un certain nombre d'idéologies, que ce soit la communiste, que ce soit la socialiste. Finalement, le sionisme a réussi. Alors moi, j'avais une référence quand même à donner. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est à la fin de la parachate noire. Lorsque justement, dans le suivi, justement, le texte, il dit la chose suivante. Vaïkar Terach et Avram Beno, Vaïklot Ben Haran Ben Beno, Vaïtsarak Alotush et Avram Beno, Vaïtseu Itam Yurkazdim, Lalichet Arzakenan, Vaïavou Arzakenan. Donc Avram, il sort de Babylonie et donc pour aller en Kenan. Si vous remarquez, en fait, Avram, il sort parce qu'en fait, il sort de sa zone de confort. Il sait que s'il reste en Babylonie, il va s'assimiler. Mais finalement, personne ne lui donne l'ordre. C'est une initiative personnelle qu'il prend. Ce n'est qu'après, dans l'Ech Lecha, Vayomer Hashem Avraham, l'Ech Lecha. À ce moment-là, on fait intervenir Hashem qui lui dit, effectivement, sort. Mais en fait, Avraham est déjà sorti. Il a pris l'initiative, lui-même, donc de sortir de Babylone. Et en fait, ce que moi j'ai l'impression de retirer de votre développement, effectivement, c'est que les rabbanim, donc... Et en fait, non, pour la plupart, du moins les Haridim n'ont pas pris le mouvement en route, et tout simplement parce qu'en fait ils avaient peur, ils étaient désorganisés et en fait ils avaient très peur de ce qui pouvait se passer. Et donc, ce sont des gens, effectivement, des individus qui ont pris l'initiative, sont sortis de leur zone de confort. Et encore une fois, et je reviens par rapport à ce qu'on a dit à propos de Herzl, il visait une population des juifs occidentaux, alors qu'en fait, ce sont les juifs orientaux qui, eux, se sont accrochés au sionisme. Les juifs occidentaux, en Allemagne principalement, n'ont pas du tout été sensibilisés à la question sioniste. Et je ne parlerai pas de l'indifférence qu'il y a eu en France et du rabbinat français à ce moment-là.
Oui, mais je pense que c'est vrai.
Aussi la critique du sionisme comme une forme de banalisation de l'existence juive et de perte d'une politique juive qui serait fondée sur la tradition, sur le messianisme. On pourrait trouver peut-être d'autres références. Et ça, je pense que ça... C'est précieux, c'est pas seulement une réaction, comme a dit Danny Trom, une mise sous pression face à l'émergence de la modernité politique, c'est aussi la défense peut-être d'un modèle. Alors j'ai été peut-être insuffisant en l'exposant, ce modèle, mais je pense que c'est ça que je trouve intéressant dans la réaction, dans tous ces textes, ces Higuerot, etc., qui forme un corpus d'ailleurs littéraire très intéressant à étudier, hein, et où il y a énormément de travail sur les sources, voilà, qui reste peut-être encore à étudier systématiquement. Enfin, ça a été fait.
C'est vrai que pour les
achetements
des séparades, ça en coupe ce que vous dites, il n'y a pas le même passif, enfin, il n'y a pas le même rapport. C'est pas la même histoire. Il est probable, évidemment, que les séfarades ont adhéré beaucoup plus facilement à un modèle politique sioniste qui était dans la continuité de leur foi. Il n'y a jamais eu de rupture, en fait. Et ils ont vu dans ce qui se produisait le miracle annoncé. Hein. Donc, il n'y a pas eu, justement, ces coupures et ces mêmes... traumatisme qu'il y a eu pour les juifs, effectivement, d'Occident. Oui, je crois que c'est important de marquer.
Encore une fois, moi, je ne vois pas ces textes comme
des réactions ou comme des textes réactifs. Je pense qu'il y a la volonté d'opposer à la nation moderne quelque chose d'autre. Et c'est en ça que ça me paraît, ils me paraissent intéressants.
Oui, vous l'avez marqué, mais on n'a pas bien senti, vous l'avez fait, effectivement, ce serait intéressant de revenir à d'autres moments du séminaire, enfin d'autres séminaires sur cette question. On sent qu'il y a un modèle politique et un modèle, et une réflexion sur le nationalisme qui vous intéresse et qui vous paraît très large et très avancée. Mais seulement, personnellement, je n'ai pas bien compris en quoi.
Par exemple, on peut dire, mais ça je reprends une idée qui était développée par Shmuel Trigano, mais c'est à titre de suggestion. L'espace public n'aurait pas dans ce qu'il appelle, en reprenant la formule d'Eisenstadt, la civilisation juive, le même sens que dans le même sens que l'espace public au sens moderne du terme. Par exemple, il le réfléchit à partir de l'Hérouv, qui définit différemment l'opposition entre ce qui est privé et ce qui est public, et la distinction fondamentale de la politique des sociétés modernes. Voilà, ce serait une direction, que l'on pourrait chercher en travaillant à partir des sources. Voilà, c'est juste, je l'indique juste comme ça, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'aller puiser à ces textes méconnus.
Est-ce que ça n'a pas lieu d'être incarné précisément pour travailler ces concepts?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Dans un territoire, justement.
Avant de passer par Cécile, vous voulez intervenir sur toutes les questions qu'il y a eu? Ah oui, je vais lui passer. C'est pas oublié.
Frappant, c'est que les positions orthodoxes, celles qui n'étaient pas conciliantes avec le sionisme ou qui s'y opposaient, elles étaient ultra dominantes. C'était la doxa. Ça, il faut se remettre dans le... Aujourd'hui, on va les repêcher comme si elles contenaient quelque chose de subversif. En fait, ce qui était subversif, ben oui. Je l'entends comme ça, comme une petite musique à l'arrière-plan de votre exposé, ce que je comprends parfaitement. Il n'y a pas... Mais comme s'il y avait quelque chose... Enfin, c'est peut-être même pas comme si... Il y a quelque chose d'effectivement subversif dans le refus de suivre le modèle stato-national. Voilà. Mais le refus de suivre le modèle stato-national, c'est-à-dire aussi le refus de l'émancipation, la résistance à la Haskalah, vous parliez de Mendelssohn. Naturellement, Mendelssohn, le sionisme n'est pas dans l'actualité du tout de Mendelssohn, ça n'existe pas. Et ce que veut Mendelssohn, c'est être un juif allemand. C'est ça qu'il veut Mendelssohn. Il veut que les juifs cessent de se penser en exil. Et il veut que les juifs cessent de se penser en exil. C'est une révolte contre... Ce sont toutes des révoltes contre le paradigme de l'exil. L'émancipation et le sionisme après. Le sionisme est une révolte contre la tradition. Lisez les textes les plus parlants, c'est Berdichevski. C'est contre les rabbins, contre les écrits traditionnels, contre le pouvoir des rabbins, puisqu'il y a une lutte politique aussi. C'est contre le pouvoir des rabbins. Et c'est une volonté de rompre avec le monde traditionnel. Et naturellement, le monde, les rabbins là, ils sont, c'est pas qu'ils sont sous pression seulement à cause de la Shoah, ils sont sous pression de la modernité politique, des avancées de l'émancipation. Et naturellement, maintenant que le sionisme effectivement s'est avéré en réalité efficace, et une sanction de l'histoire. Sanction de l'histoire, c'est que il n'y a pas un seul orthodoxe rabbin qui a survécu en Europe de l'Est s'il n'avait pas été exfiltré par les sionistes ou les communistes. C'est eux qui l'auront, le peu qui est resté, c'est eux qui l'auront sauvé la mise. Donc Du coup, ils sont sous pression, effectivement. Ils sont sous la pression du schéma traditionnel qui, en fait, se trouve comme deux fois infirmé. C'est-à-dire une première fois, le troisième serment, les nations ne vous opprimeront pas trop. On a vu avec le livre d'Esther que c'est pas qu'ils les ont trop opprimés, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui était censément impossible. Et ça met l'univers de pensée orthodoxe dans la difficulté, d'où les positions de Teitelbaum qui sont quand même, je ne sais pas comment les qualifier, mais qui sont un peu désespérés en fait. Tentative quand même d'en dire quelque chose qui peut sauver son truc. Mais personne ne le suit parce que, franchement, c'est. Non, mais là, madame a raison, c'est une poignée. C'est une poignée. Les autres sont dans une zone grise. Comment ?
J'ai dit qu'il y avait une poignée qui était en Iran et qui sont des dizaines de milliers.
Oui. Voilà, mais ça ne représente qu'une fraction assez réduite, et le reste est dans des tentatives de composition. Ils n'ont pas le choix. Ils sont dans des tentatives de composition. Donc, naturellement, les textes et les commentaires recèlent une charge subversive, mais la charge subversive, elle est en quelque sorte désamorcée par le fait qu'elle est aussi une défense conservatrice de charges subversives qui sont en quelque sorte venues à sa suite et dont la réalité historique montre la marge de l'histoire en quelque sorte a donné raison, on pourrait dire, au fait que la politique des trois serments, elle n'avait pas de prise sur le monde.
Oui.
Non, c'est pas vu.
Et après tout, le refus du modèle stato-national moderne, mais qui n'est pas éternel, pose au monde juif aussi la question de qu'est-ce qu'on fait après aussi. Donc après tout, dans la pensée de la Torah, dans l'étude, on peut aussi trouver une réflexion qui concerne d'autres temps où l'État-nation moderne, d'ailleurs modèle en crise actuellement, n'existera plus. Et c'est d'ailleurs, c'est pas seulement les milieux orthodoxes qui s'en préoccupent, c'est y compris une critique qui vient de la philosophie politique, etc., des historiens. Donc voilà, et après tout, pourquoi ne pas, puisque ce qui nous intéresse c'est la politique juive.
D'autant plus que le modèle stato-national, lui, à travers la politique, alors de l'actionnalisme du milliardaire, n'est pas un État-nation. La critique y est. Elle n'est pas un État-nation, puisqu'elle est un substitut de la Suède. Ce n'est pas du tout l'État à l'Afrique. C'est l'idée c'est la raison pour laquelle, en fait, le modèle actionnaire a toute une oreille favorable
dans le. Ça, j'en ai fait maintenant l'expérience. Les seuls qui, en fait, disent « Ah oui, il y a un truc intéressant dans ta construction », c'est Mizrahi de gauche. C'est eux qui saisissent le point. Et qui ont tendance, donc et pas du tout du côté du sionisme laïque, pas du tout. C'est de ce côté-là que la proposition est intéressante, parce que justement, elle fait de l'État juif non pas, pas du tout un modèle stato-national, parce que l'État reste étranger. C'est pas du tout une reprise. C'est pas un État, c'est pas un État-nation juif. C'est la mise sous protection d'un État étranger. Alors, le paradoxe, c'est qu'on se l'est donné, je le concède. Alors, on se l'est donné et on se l'est fait concéder. D'où toute la discussion autour de Balfour. On se l'est fait concéder de l'extérieur. C'est la réalité historique. On se l'est vraiment fait concéder de l'extérieur. Autrement, il ne serait pas advenu.
Question chez Cécile.
Non, mais je voulais juste, c'est une question qui n'a peut-être rien à voir, mais quand mon voisin a dit que le sionisme, c'est la seule idéologie qui a réussi, et je pose la question, est-ce que ça existe encore l'idéologie sioniste? Qui est-ce qui a l'idéologie sioniste du Mapai de plus personne maintenant? Les idéologies, c'est un espèce de nationalisme plus les religieux. Le sionisme de mon enfance, en tout cas, il n'existe plus. C'est raté, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression, mais je ne sais pas si c'est de ça qu'on parle, quoi. Mais en tout cas, les religions, d'une certaine façon, ont réussi. Pas les Haredim, mais ce qui tient Israël, c'est un espèce de discours religieux national. J'ai l'impression, vu de ma fenêtre, quand j'y vais, mais je ne connais pas tout le monde, mais...
Non, mais quand je pense, vous avez raison, mieux définir ce que je dis. Simplement, c'est ce que
par les orthodoxes, la construction de la terre, le retour sur la terre d'Israël, en dehors de toute venue de la fin des temps.
Objectivement, il y a quelque chose de réussi, mais l'État en tant que c'est plus un État sioniste. C'est un État, on ne sait pas bien, mais il n'y a plus le côté à nous bâtir quelque chose. Où on bâtit pour le Messie dans les territoires comme ça, où on vit pour contenir, mais il n'y a plus de.
Dans le système orthodoxe, si on réfléchit au pouvoir, comment se situe le pouvoir, ce sont donc les rabbins qui demeurent les maîtres du pouvoir.
Non, les rabbins.
Je ne pense pas que dans tous les textes que j'ai parcourus, l'enjeu soit la prise, soit un enjeu de pouvoir. Pas du tout, parce que les rabbins vivent en Slovaquie, vous avez vu les pays que j'ai cités, sous des pouvoirs étrangers, dans des situations où ils sont au contraire au maximum de leur faiblesse, comme vous l'avez dit, puisqu'ils dépendent totalement des autres, y compris des autres juifs, malgré tout, essayant quand même de faire quelque chose. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait là-dedans un enjeu de pouvoir. Le pouvoir des rabbins, c'est quelque chose qui, en réalité, s'est étiolé presque depuis au XIXe siècle, qui n'a plus vraiment de... Non, je vois pas... Comment ?
Le pouvoir des rabbins, c'est depuis le Gaona qu'ils n'ont plus.
Oui,
parce que fini le Gaona, ils n'ont plus de...
Oui, c'est ça, on peut dire...
Autour des gens, ils n'ont plus de pouvoir.
Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je trouve qu'ils ont une autorité. Au contraire, à partir du moment où on sépare le politique et où on le concède justement au pouvoir en exil, hein, donc au pouvoir qui n'est pas juif, ça veut donc dire que l'autorité est entre les mains des rabbins. Et donc, au contraire, c'est un maintien de l'autorité. C'est pour ça que je retiens ce qu'a dit Danny Frank concernant la crise. Il y a effectivement une crise, c'est-à-dire que la question du sionisme pose quand même une crise là, de l'autorité. Mais...
Oui. Oui,
soit je laisse le... Exactement dans le même sens.
sur le plan systématique, qu'est-ce qui pouvait empêcher ces rabbins de considérer qu'après tout, cette restauration n'en était pas une, puisqu'elle n'était pas spirituelle et qu'en un sens, elle ne les concernait pas? Je veux dire, on peut parfaitement admettre que, puisque tout ça n'est que purement politique et advient hors de toute rédemption messianique, ça n'est qu'une aventure, une aventure parmi d'autres, mais qui n'a rien en propre de spirituel, et par conséquent, n'étant pas soluble dans la spiritualité, elle n'appelle aucune réaction de type spirituel de la part des rabbins. Et après tout, on aurait pu s'imaginer que ceux-ci se maintiennent dans une saine indifférence à l'égard d'un phénomène qui ne les regardait pas.
Oui, c'est une attitude tout à fait possible, mais elle est totalement contradictoire avec le fait qu'on existe une relation profonde des milieux orthodoxe avec la terre d'Israël, qui est en tout cas du monde de l'étude, justement, qui est par exemple, j'ai évoqué très brièvement ces retours en Israël venus des milieux rabbiniques, des disciples du Gaon de Vilna, ou des milieux qui se sont constitués à Safed, etc. Donc il y a évidemment pour les rabbins un véritable enjeu dans le fait que la terre soit peuplée de ce qu'il appelle des kofrim ou de et également un enjeu d'ailleurs dont le Rav Teitelbaum dit qu'il se répand sur le monde entier, c'est-à-dire que le fait de rendre impure la terre d'Israël a des répercussions sur le monde.
Mais alors est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusqu'à dire que dans ce cas-là il y a, j'ai envoyé le mot dans un autre sens que celui que vous utilisez, il y a une espèce d'impureté fondamentale de la spiritualité de Dieu. Et on pense qu'une terre isolée, elle est pure compromise
dans une situation politique qui fait que toute affaire politique, si étranger qu'on soit à la politique, nous concerne encore, parce qu'une terre, c'est homogène à toutes les autres. Un État, c'est homogène à tous les autres États. Et que d'une façon ou d'une autre, la spiritualité ne peut pas se laver les mains de sa compromission dans l'affaire politique. Et en ce sens, même quand ils voudraient s'en désintéresser, ils sont quand même obligés d'y avoir un œil, parce que quelque chose du judaïsme se joue là quand même. Il y a une espèce d'impureté consubstantielle en quelque sorte. Et pourquoi fallait-il qu'on ait une terre et qu'on, si je puis dire, qu'on doive se mettre les mains dans le cambouis? Je ne sais pas comment formuler la chose.
Mais on voit bien dans l'exposé que c'est une politique. C'est-à-dire, je le concède, c'est une politique, c'est une condition, l'exil est une condition politique. Donc elle est, alors politique, le mot n'est pas bien choisi naturellement, parce que c'est un mot grec, mais elle est, c'est une condition qui est une condition politique, puisque on dit, puisque on doit réfréner, se réfréner d'agir, c'est agir politiquement, c'est s'empêcher. Alors naturellement, pourquoi est-ce que les réactions sont vives? Parce qu'une parole d'autorité parle toujours pour tout Israël. Toujours. C'est-à-dire un rabbin parle pour tout Israël. Il n'y a pas de parole d'autorité qui ne rend pas... Je veux dire, il y a une expression, je ne sais plus comment laquelle c'est que chacun est responsable de tout Israël. Hein? Chacun est responsable. Voilà, exactement. Et donc forcément, on ne peut pas être indifférent. Autrement, il y a un phénomène sectaire. Autrement, c'est l'enfermement. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire des Juifs, c'est que finalement, il y a eu assez peu de phénomènes sectaires. Il y a toujours eu des moments de rattrapage du tout. Il y a eu très peu de séparation complète, de schisme. Même avec le sionisme, on voit bien dire, je crois d'ailleurs que l'expression est de Cook, de dire que le Messie, que le sionisme, c'est l'âne sur lequel le Messie va se... Je crois que c'est Cook qui était le successeur de Reines, effectivement, et qui va prendre une direction différente, mais la période est différente aussi. Hein, quand Cook, ici, Reines est mort, je crois, juste avant la Première Guerre mondiale. Mais c'est pour ça. Il faut toujours, pour finir, le tout Israël est toujours dans son dans son hétérogénéité est quand même toujours reconstituée. Autrement, ça n'aurait pas pu perdurer. Ça, c'est le et donc, quand Teitelbaum parle, il parle au nom et à l'horizon de l'ensemble. Et donc, c'est sur
Spinoza. C'est peut-être, je crois que vous avez un peu esquissé, ou qu'on pourrait esquisser avec vous, c'est de dire, dans la mesure où, à l'axiomatique du gardien, il y avait une espèce d'écart entre le pouvoir et l'autorité, puisque le pouvoir politique n'était pas en notre possession, les rabbins avaient l'autorité. Dès l'instant qu'il y a une politique juive sioniste, les rabbins se voient dépossédés de leur autorité, et du coup, c'est presque une réaction, si je puis dire, théologico-politique. Enfin, c'est une réaction de frayeur devant un pouvoir, devant une autorité morale qui risque de leur échapper. Ce serait une explication pas très charitable, mais qui serait interne à la logique de l'autorité.
Il y a toujours eu une politique, même quand elle était passée. Il y a toujours eu une politique qui se tenait à côté, qui était parfois un peu confondue, mais qui souvent se tenait à côté. Je veux dire, prenons Josef von Rosenheim, il est le rabbin de personne. Il est le commandant des Juifs. Oui, mais il n'a pas d'autorité, il n'a aucune autorité
d'ordre.
Oui,
c'est la politique de l'autorité contre la politique du pouvoir, si je puis dire.
Oui, voilà.
On peut distinguer la politique de l'autorité et la politique du pouvoir.
Cette distinction existe en historique, puisqu'il y a des éléments dans l'exil d'institutions politiques, le Kahal,
même le consistoire, à sa manière, ou les synagogues, oui, bien sûr. Encore que là, c'est des maisons d'études, c'est plus complexe. Mais il y a l'assemblée des quatre États en Pologne. Enfin, il y a même beaucoup de structures politiques intéressantes, d'ailleurs concrètes, de la politique qui matérialise la politique juive en exil. Donc c'est on n'attend pas l'État d'Israël pour qu'il y ait une existence institutionnelle de la politique et des rapports de pouvoir. Là, c'est là où se jouent dans ces institutions les relations de pouvoir plutôt que dans l'autorité rabbinique. Et effectivement, je suis assez d'accord pour distinguer les deux concepts.
Je voudrais qu'on n'écarte pas ce qu'a mis en discussion le Rav Avijes la dernière fois, en changeant complètement l'axe justement du pouvoir et en le plaçant sous un plan presque poétique, en parlant de la majesté. Il parlait de majesté, il y a de la majesté dans le monde, il y a de la majesté dans le rapport aux autres, et donc il a complètement modifié ce qu'on entendrait par gardien, parce que c'est soi-même qui devient le gardien de cette majesté, qui est ressentie de manière donc subjective ou peut-être collective, puisque justement Danny Trump l'interrogeait sur le plan collectif. Et donc je remets en circulation cette idée, disons, assez poétique, mais au sens évidemment fort, presque grec, enfin, du mot poétique. De la majesté, donc, de ce que ça peut représenter. C'est peut-être là que la question du politique se pose autrement dans la tradition juive.
Oui, c'est vrai, mais de toute façon, une politique orientée sur le messianisme, ça a quelque chose de majestueux. C'est quand même...
Je pense pas que ce soit dans cet esprit de transcendance d'un Messie à attendre. Je crois qu'au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus quotidien, de beaucoup plus banal. Et c'est ça qui était assez intéressant dans son intervention, c'est qu'il faisait redescendre la majesté, disons, sur Terre, qu'il la banalisait et qu'il en faisait un problème de presque d'éducation, puisqu'il disait qu'il fallait être élevé dans la cour d'un roi pour la ressentir. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, disons, comme notion. Et c'est pas quelque chose qui s'institue comme une autorité, un pouvoir, etc. C'est quelque chose d'un autre ordre, qui sollicite d'autres repères, disons.
Oui.
Personne ne veut intervenir? Yona?
Il se trouve que dans la paracha de la semaine, on a un exemple d'une déviance possible de... alors le verset c'est « Pen yesh bachem ish o isha o mishpacha o shevet asher levavo pone hayom mi machem elokenu » Tu as cité Berdichevski qui posait explicitement le sionisme comme une alternative à être juif avec la Torah. Et ça, on ne peut pas nier que le débat depuis 70 ans sur le sol d'Israël, il se concentre beaucoup sur cette question. Est-ce qu'il y a une possibilité maintenant pour les juifs en Israël de vivre en ayant le nom de juif, mais en assumant complètement l'abandon des lois de la Torah? Et la tension, on va dire, des années qui nous séparent, on va dire, de la création d'Israël jusqu'à maintenant, elle met bien, on va dire, l'accent sur le fait qu'ici, ce problème, il n'est pas un problème dans des termes simples, parce que ce que la Gemara, elle, ce à quoi la Gemara, elle fait appel pour parler de cette notion, c'est la notion de Shvoua. Alors justement, c'est aussi ce qui est dans la paracha de cette semaine. La Torah, c'est un engagement de type Shvoua. Et à cet engagement de type Shvoua, il y a une histoire. Et c'est cette histoire qui est, on va dire, en veille dans le peuple d'Israël. Et que le fait de faire appel pour parler de ces notions à la Shvoua, ça, on va dire, élève énormément l'enjeu qui précisément se joue et des mots qu'on en a pour en parler. Ça veut dire le fait que ça ne soit pas un débat halakhique, classique, débattu, c'est justement du fait que ce sont des notions générales qui englobe l'ensemble, on va dire, de notre engagement et de notre posture par rapport à notre engagement dans la Torah.
C'est pour ça que je considère que c'est une histoire englobante. Ce qui est en jeu, c'est de toute la Torah.
Ce qui est en jeu de toute la Torah, c'est qu'il y a maintenant, de façon très exprimée, chez les juifs, cette volonté de pouvoir être aussi porteur du nom juif sans continuer dans la tradition. C'est ça que le judaïsme laïque, on va dire, installé en Eretz Israël, pose comme réalité problématique ou comme réalité à construire.
Oui, en tout cas, c'est vrai que j'aurais pu développer la thématique de la Shvoua, parce que, évidemment, ça implique aussi un certain nombre dans les raisonnements.
Dans les textes que j'ai cités, on le voit souvent. Cela implique des considérations halakhiques quant au fait de la violer, de la respecter, des engagements. Enfin bon, il y a tout cet appareil théorique autour de la question de la promesse, du serment plutôt, qui entre en jeu et qui finalement...